Voilà, on peut commencer. Alors, je vais vous demander en premier lieu comment vous avez constitué votre corpus, comment vous avez rassemblé les matériaux, plus particulièrement le choix de vos informateurs dans votre collecte.
Oh, alors là, on part, mais on ne sait pas du tout où on va. On peut se faire des projets, des plans, mais alors l'enquête d'informateurs, les bons danseurs, les bons chanteurs, on part presque sans rien. Moi, j'ai commencé à partir d'un article pour choisir mon sujet. J'étais très intéressée par l'histoire de la danse et par les passerelles qui pouvaient exister, les différences entre ce qui était de tradition orale, ce qu'on appelle danse populaire, et la danse savante, puisque j'étais danseuse professionnelle et chorégraphe. Et c'est un article de Jean-Noël Clamont, qui était tambourinaire à Villeneuve-les-Avignon, que j'ai lu et qui expliquait, mettait sur la piste de cette origine de cette technique qu'utilisent les farandoleurs, qui venait de danseurs brevetés au régiment et réinstallés localement. Et à partir de là, je suis allée le voir et j'ai commencé il m'a envoyé à quelques personnes et puis qui m'ont renvoyé à d'autres. J'ai trouvé des brevets avec des noms et tout ça se fait une espèce de suite qui est complètement imprévisible au départ. C'est ça qui est amusant d'ailleurs. Et quand j'ai été aussi, j'avais commencé mes premières missions pour les arts et traditions populaires dans les CNRS par les bourrées d'Aubrac. Mmh. Et donc c'était mes deuxièmes missions CNRS et pour une thèse cette fois-ci. Mais les premières missions que j'avais faites, j'étais en Aubrac et j'étais allée dans les cafés pour demander qui dansait bien. Dans les fêtes, qui étaient les bouts en train, et puis d'une adresse, on va au suivant, et ça se fait comme ça. C'est tout un réseau qui est absolument impossible de prévoir au départ. C'est une aventure, c'est ça qui est chouette.
Et vous avez décidé, ça peut sembler être une évidence, de filmer pour la danse.
Ah bah oui.
Mais c'est d'un point de vue technique essentiellement, mais aussi dans une autre optique.
Il n'y a pas de document de danse aujourd'hui. C'est absurde de ne pas filmer. La danse, c'est du vécu, ça se passe dans le temps. Et si on veut étudier le vocabulaire, la composition d'une danse, le style, les différentes interprétations, le film est indispensable. Mais il ne suffit pas, parce qu'à partir du film, il faut savoir qu'est-ce qui a été filmé et il faut faire des analyses après de film. On ne peut pas faire d'analyse quand on a vu une fois, même en prenant des petites notes, on ne peut pas faire une analyse, des comparaisons de vocabulaire, de composition de danse, c'est impossible. Ah non, maintenant c'est... ça paraît complètement aberrant. On peut avoir des idées, des hypothèses très intéressantes en voyant des danses. Mais si on veut faire de la choréologie, on ne peut pas se passer du film.
Et vous avez fait des sélections ensuite des films
que
vous
Ah non.
Avez... Non, vous avez
non, non, j'ai tout
conservé.
J'ai tout conservé. Même ce que je ne trouvais pas intéressant, j'ai tout conservé.
Est-ce que vous avez fait aussi des récits de vie? Un récit de vie?
Non.
Non, vous n'avez pas...
Non, non, je leur ai demandé d'où ils venaient, s'ils étaient bien originaires de la région, leur métier, leurs parents, et comment ça se passait dans leur jeunesse, enfin toutes les informations qu'on glane là avec des notes, et puis on remet les notes au propre pour situer bien les informateurs et les personnes qu'on filme. Leur parcours, leur maître, ça c'est très important pour les farandoleurs, puisque c'est un vocabulaire savant hein, qu'on apprend, hein, ça n'a rien à voir avec la danse traditionnelle qu'on apprend sur le tas, dans les fêtes, en famille, dans les noces, génération après génération.
Très
Là,
technique.
c'est. Oui, vous avez
Oui,
vu.
j'ai vu
Oui.
des films.
Oui. Donc c'est ça qui m'intéressait. Comment se faisait-il qu'une technique aussi savante, qu'on la retrouve, qu'elle se soit folklorisée en quelque sorte, qu'elle soit devenue un patrimoine régional petit à petit au bout de je ne sais combien de générations, et qu'elle soit défendue comme une danse traditionnelle. C'était intéressant, quoi. Parce que ça n'a rien à voir avec la danse traditionnelle. Les rondes chantées, les bourrées, les danses bretonnes, ça n'a rien à voir comme apprentissage. Là, il faut un maître.
Et vous avez constitué des films, mais aussi des enregistrements sonores?
Très peu, parce que j'avais
Peu.
très peu de bandes, j'avais très peu d'argent, j'avais peu de films et j'avais peu de bandes. Donc, j'ai pris beaucoup de notes.
D'accord.
D'ailleurs, j'ai déposé mes notes des informateurs. Et puis après, sur tous ces concours de farandole dont ils m'ont parlé, 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 de ce qu'avait fait leur père ou leur grand-père, etc., j'ai fait un énorme dépouillement des journaux de locaux pour retrouver ces concours de farandole, ce qu'en disaient les journalistes à l'époque. Enfin, il y a tout un. J'ai fait un très gros travail, puisque c'était une thèse de troisième cycle. Comme je n'avais pas de bourse, rien du tout, que l'émission n'était pas payée, j'avais juste un peu de matériel et un petit défraiement pour mon temps de mission. Mais donc je travaillais, j'enseignais la danse, pas celle-là, mais d'autres danses. À Paris, et j'avais peu de temps, j'ai fait ça pendant mes vacances, avec tout un gros travail d'analyse ou de préparation, de bibliothèque aussi, parallèle dans l'hiver en plus, quoi. Et les missions, c'était court, hein, c'était des missions à Pâques et l'été. Mais j'ai mis 7 ans à constituer
Le fond, le matériau.
le fond, oui, jusqu'à la rédaction, c'est 7 ans. Sur le terrain, j'y étais de 66 à 71, je crois, pendant 5 ans. J'ai passé ma thèse en 73. Donc, oui, j'ai mis 2 ans ensuite pour la rédaction. Mais
D'accord.
j'ai travaillé sur ce sujet pendant les 7 ans.
Et comment vous est venue cette envie de déposer tout le matériau qui vous a servi, amener à bien votre
Ah ben non, non,
étude?
non, moi je l'ai fait pour passer une thèse. Moi j'ai fait tout ce travail pour passer une thèse parce que Georges-Henri Rivière, qui m'avait embauché au Musée des Arts et Traditions Populaires, avec l'accord de Jean-Michel Guilcher, qui était chef du département de danse, c'est Rivière qui était d'accord pour que je travaille là, m'avait expliqué après l'enquête sur l'Aubrac. Il m'avait dit, je lui ai dit, je trouve c'est passionnant, moi je veux absolument faire de la recherche sur la danse traditionnelle en France. Voilà, mon parcours, je lui avais expliqué des tas de choses. Et il m'avait dit, Francine, j'aimerais beaucoup que vous puissiez continuer, mais je ne pourrais pas vous donner d'argent. Si vous voulez le faire sérieusement, faire de la recherche, il faut que vous rentriez au CNRS. Et si vous voulez rentrer au CNRS, il faut passer un diplôme, une maîtrise et une thèse. Thèse de troisième cycle en tout cas. Sinon, vous n'avez aucune chance de rentrer au CNRS. puisque c'est ça que vous voulez faire, puisque j'avais quitté les planches et que je voulais faire de la recherche. Donc ma motivation, c'était faire de la recherche.
Mais pour et déposer le matériel.
Alors déposer tout, ça c'est des questions que... D'abord, j'ai fini ma thèse et puis je ne pouvais pas rentrer au CNRS parce que c'était une époque où c'était très très difficile. Il y a eu une époque où c'était facile, quelques années avant. Et puis là, il fallait faire partie d'une grande écurie, de Leroy Gouron ou de Lévi-Strauss. Si on ne faisait pas partie d'une grande écurie, il n'y avait aucune chance. Donc, lorsque j'ai eu ma thèse et que j'ai été demandée un peu ce qui se passait, ils m'ont dit, bah, alors, quels sont tes atouts, etc. Et puis, il y avait deux ou trois postes pour des centaines de candidatures. Donc, j'avais aucune chance. Donc, j'ai même pas posé ma candidature au CNRS. Pour moi, la motivation de la thèse, c'était pour rentrer au CNRS. Alors, pour déposer, ça, c'est la question que je me suis posée. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup, puisque je n'ai pas pu rentrer au CNRS. J'ai bifurqué sur... J'ai repris mon travail professionnel de spectacle et de chorégraphe. Et j'ai travaillé, ça a très, très bien marché, puisque j'ai constitué une compagnie, Rie et Danserie, en 1980. Et j'ai eu beaucoup de travail, des tournées et tout, donc j'ai absolument tout abandonné pour le traditionnel pendant des années. Et c'est à la retraite, à 66 ans, que je me suis reposé la question, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que ça peut servir? Oui, ça peut sûrement servir, il faut mettre tout en ordre. Et maintenant qu'il y a des centres qui n'existaient pas, des centres régionaux spécialisés, voilà ce que je vais faire, je vais mettre ça en ordre et je vais les déposer dans chacune des régions.
D'accord.
Pour que les chercheurs suivants puissent s'en servir et ne refassent... De toute façon, ils ne pouvaient pas refaire le même travail, puisque c'était 30 ans après. Mais pour que ça serve de... Puisque c'est daté d'une documentation, et qu'on puisse aller plus loin et comparer, etc.
D'accord. Donc, vous avez déposé dans plusieurs lieux.
Voilà, ben dans chacune des régions où j'avais travaillé.
D'accord.
Donc, les Bourrées d'Aubrac, je ne les ai pas déposées parce qu'il n'y a pas de lieu pour la bourrée, je crois. Mais enfin, bon, je n'ai pas grand-chose. Et là, il y a eu la publication sur l'Aubrac et j'avais donné tout mon travail à Jean-Michel Guilcher qui a publié un gros article dans l'édition sur l'Aubrac du CNRS. Et puis j'avais fait en annexe une petite notation des bourrées, notation, l'écriture du mouvement. Moi, j'utilise beaucoup la notation du mouvement. Et je trouve que c'est un instrument, un outil indispensable aussi, si on veut faire une analyse très sérieuse et des comparaisons. Et donc, il en reste des... Il y a des choses qui sont publiées, qui sont restées. Donc, non, alors après l'Aubrac qui a été publié, donc, l'Ajou a fait des films aussi, donc il reste des choses. Après, j'ai fait cette thèse. Puis ensuite, je suis allée me promener en Vendée et en Haute-Bretagne et dans le Sud-Ouest. Et j'ai tout déposé pour la Vendée, à part au centre de Parthenay, pour la Bretagne... à la Cinémathèque de Brest et à Tikendar et à Dastum pour le sonore, puisque là il y a plusieurs les dépôts sonores et audiovisuels ne se font pas au même endroit, et au Conservatoire Occitan pour le peu que j'ai fait en fin de mission sur le Sud-Ouest. Donc tout est déposé.
Donc vous avez eu quelques hésitations devant certaines sources à déposer ou non, vous êtes, il n'y a pas eu de sélection. Vous avez tout déposé dans différents lieux.
Non, j'ai pas tout déposé mes notes. J'ai rédigé des choses pour les chansons vendéennes. Catherine Perrier m'a beaucoup aidée et j'ai fait des transcriptions des chansons filmées, des rondes filmées avec les noms du meneur, avec des analyses des structures musicales et des structures chorégraphiques. Le texte, Catherine Perrier a fait un travail de recherche sur ces thèmes avec les catalogues de La Forte et de Coirot. Et donc, ça a été étayé d'un travail. Et non, il y a quelques films ou des notes qui n'étaient pas intéressantes que j'ai pas déposées. Mais
Vous
sinon,
avez
j'ai déposé
conservé.
tous les noms des informateurs et j'ai fait un gros travail. C'est très très long, hein. Surtout 30 ans après, hein. Je l'aurais fait tout de suite. Il y aurait eu des centres à l'époque. Je l'aurais fait tout de suite, ça aurait été plus facile. Mais alors se replonger là-dedans 30 ans après, c'est 25 ans après. Ah, c'était difficile, mais vu qu'il y avait ces centres, il fallait le faire. Maintenant qu'on a décidé qu'il faut le faire, ben on le fait. On fait une petite pause.
Oui, je vous en prie.
Hein.
Alors, pourquoi avoir choisi de déposer certaines archives à la MMSH en particulier?
Eh bien, le fond sur les farandoles, comme j'avais fait cette thèse, c'était le fond le plus important que j'avais. J'avais beaucoup de choses, quoi. Forcément. Et je ne connaissais pas l'existence de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. En Vendée, en Bretagne, je connaissais Tikendar, je savais que le centre de partenaire Tikendar dès le départ. Et le centre de la maison bretonne. Parthenay, j'en avais eu connaissance aussi, et donc par. Comment il s'appelle Rouget, de la FAMDT. Enfin, j'avais demandé quels étaient les centres qui existaient, puisque à partir des années 95, quand je me suis posé ces questions, que j'allais peut-être mettre de l'ordre, qu'est-ce qui existait? Donc je suis tombée, ça je connaissais Corbefin qui était venu me voir aussi, qui avait fait un recensement des collecteurs, et Corbefin était venu me voir. Bon, je connaissais le Conservatoire Occitan, Parthenay, Tikendar, et en Bretagne, j'avais téléphoné à Fanise, qui travaillait à Montpellier, je crois, pour les archives départementales, peut-être, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas de centre Languedoc. Et c'était beaucoup plus gardois. Mes fonds les plus intéressants, évidemment, sur les farandoleurs, c'était sur les sociétés de farandole, c'est le Gard. Et en Provence, il y avait beaucoup moins de choses. Et donc, je ne connaissais pas l'existence de la maison méditerranéenne. Et je l'ai appris beaucoup plus tard. Donc j'avais commencé à mettre tout en ordre pour les autres régions et je savais où y déposer. Et ce gros fonds sur les farandoles et les sociétés de farandoles, je ne savais pas où le mettre. Et tout à coup, je crois que c'est Bénédicte Bonnemaison qui m'a signalé qu'il y avait ce centre. Et j'ai téléphoné là, et je ne savais pas où le mettre, et j'avais décidé, parce que je me rendais bien compte que c'était dommage de le mettre à la poubelle, qu'il fallait le déposer, donc j'étais en relation avec le Centre national de la danse, chez qui j'allais déposer aussi des choses de ma compagnie, sur les danses anciennes, les archives de riz et danserie. Et là, il y avait aussi la Cinémathèque de la danse, centre où je déposais des trucs de spectacle, les documents de spectacle. Et je savais pas où le mettre, ça. Et j'étais en pourparlers pour déposer tout au Centre national de la danse. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait un centre régional, pour moi, ça devait aller dans les régions. Et qu'à Paris, on le sache, qu'il y ait des doubles éventuellement de films, mais pas de la documentation complète. C'était pas là. Il fallait que ce soit dans les régions, la documentation la plus complète possible. Donc, j'ai téléphoné à Véronique Ginouvès, et puis, ça a été l'évidence. Donc, tout est reparti pour à Aix, voilà.
D'accord. Et qu'imaginez-vous comme réutilisation de ces archives-là?
Alors ça, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas donner des pistes parce que je suis persuadée que c'est impossible de prévoir à quoi ça peut servir, pour quelle recherche ça peut servir. J'ai été toute heureuse d'apprendre que Magali Vial avait continué sur les brevets et je n'aurais jamais imaginé. Donc je pense que ça peut servir à beaucoup de domaines et à beaucoup de chercheurs, mais c'est imprévisible et on ne sait pas quand ni quelles archives pourront servir. L'important, c'est que ce soit là.
Et de donner accès librement à tout le monde à ces archives, pour vous, c'était important par rapport à la propriété
Oui.
des archives qu'on constitue,
Ah
de
oui, pour
laisser un
moi.
libre regard.
Oui. Ça, pour moi, c'était évident que ça devait être diffusion libre et gratuite. Qu'il n'y avait pas à faire aucun bénéfice là-dessus. S'il faut faire des photocopies, on peut les faire payer, évidemment. Bon, s'il faut faire une copie cassette pour un chercheur, bien sûr. Mais que ça ne peut pas rentrer dans quelque chose de commercial et que le collecteur n'est pas propriétaire de ces archives. Il n'a pas de droit dessus. Il est allé chercher des choses qui existaient et pour tout ce qui est vraiment traditionnel, ce qui n'est pas le fond pour les sociétés de farandole, mais pour la Vendée, la Bretagne ou le Sud-Ouest. Les danseurs, les chanteurs que j'ai enregistrés ne se considèrent pas comme propriétaires de ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont des jalons d'une tradition qui fait partie pour moi d'un domaine public. Et il y a des acteurs de ce domaine public et des transmetteurs. Et que moi, je suis aussi une intermédiaire de transmission. On est des agents de transmission, mais que de choses qui ne nous appartiennent pas. Alors évidemment, le film, on est auteur du film, mais je considère qu'on n'a pas de droit, sauf si on veut en faire passer un bout sur la télé, à la télé, parce que ça intéressera je ne sais quoi. Bon, à ce moment-là, on peut dire qu'on est l'auteur du film. Mais il n'y a pas de sens de la propriété. Et il faut lutter contre ça, parce qu'il y a beaucoup de collecteurs qui se considèrent comme propriétaires, que c'est leur capital. Alors ça, ça me met très en colère et je ne suis pas du tout d'accord.
Et vous pensez qu'il existe des fonds qui pourraient être complémentaires pour votre étude et justement qui sont pour plusieurs raisons, qui ne sont pas déposés et justement qui pourraient aider?
Ah ben oui. Je sais qu'il y a beaucoup de films amateurs qui existent et que les centres de région ont du mal à récupérer parce que les gens qui les ont filmés se considèrent comme c'est leur petit capital et ils ne veulent pas le donner à tout le monde. Et je trouve que c'est très dommage. Alors, je sais aussi que Jean-Michel Guilcher a déposé ses films à la Cinémathèque de Brest, mais qu'on ne peut les voir que avec autorisation de Naïk Raillard. Et là, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça doit être diffusion libre à ceux que ça intéresse. Je ne vois pas pourquoi. Bon, ces histoires que ça peut être mal utilisé par des groupes folkloriques qui vont s'en emparer, les celtiques qui vont s'en emparer et le réarranger, tout ça existe, bien sûr ça existe. C'est vrai que ça peut être mal utilisé. Ça, je suis très persuadée que ça peut être mal utilisé. Mais si on, moi, je suis pour jouer le jeu de la diffusion, et puis les gens se rendront bien compte que si c'est mal utilisé, ben, ça tombera de soi-même parce que c'est pas intéressant. Et que les choses de valeur seules resteront. Enfin, je suis optimiste.
Et c'était pas du tout enfin une crainte de dépossession comme peut enfin comme peuvent penser certaines personnes, peur de.
Oh non, alors là, j'ai été légère, ça m'a fait du bien de t'épouser, moi. J'étais contente parce que je me disais, ça me pesait d'avoir ça et de me dire que bah, bientôt je serai plus là. Et qu'est-ce que mes enfants vont faire? Ils ont pas la compétence qu'il faut, ils sauront pas où le déposer, ils pourront pas s'en servir, donc à quoi ça sert? Non, il faut que ce soit déposé quelque part. Et que ce soit libre d'accès. Non, moi je suis simple là-dessus. Je trouve qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de réserve à faire, de compliquer les choses. Les gens passionnés, eh ben, ils en feront quelque chose peut-être de très intéressant. Même s'ils s'en servent, qu'ils le transforment, eh bien, on verra bien. Les gens jugeront. Mais le mettre au frigidaire, ça c'était le drame que j'ai vécu au Musée des Arts et Traditions Populaires de l'époque. Parce que le Musée des Arts et Traditions Populaires avait une politique très élitiste aussi. Et ne pouvait voir les collections que des grands chercheurs internationaux. Et que c'était pas du tout ouvert. Rivière était pour une diffusion, Georges-Henri Rivière. Mais ensuite, avec Jean Cuisinier et Claudie Marcel Dubois, Maggie Andral, ça a été une catastrophe. J'ai senti que, d'ailleurs, ils m'ont menacé de procès parce qu'ils voulaient être propriétaires et déposer tout au Musée des Arts et Traditions Populaires et eux de le mettre au congélateur. Et alors là, j'ai fait comme la joue. J'ai sorti tous mes films, mes notes, bien sûr, ils ne pouvaient pas tout avoir. Mais tous mes films, je les ai sortis sous le manteau et ils m'ont menacé de procès et j'ai pu quand même les garder. Et j'ai dit que je les déposais au CERDAV, ce que j'ai fait au CERDAV CNRS, qui était beaucoup plus ouvert que le Musée des Arts et Traditions Populaires à l'époque. Alors là, oui, ça a été la bagarre. Hein. Et Jean-Dominique Lajoux peut en parler mieux que moi de tout ça. Ça, ce sont des mauvais souvenirs, on oublie.
C'est vraiment la notion de transmission qui est au cœur de votre démarche.
Oui.
Transmission
Mais transmission,
générale, enfin, disons
oui,
large.
pour mes travaux de recherche sur la danse renaissance et sur la danse baroque, c'est la même chose. J'ai donné des stages et des stages. Comme j'ai pas pu faire une carrière longue d'interprète, parce que j'ai commencé la danse très tard et j'ai dansé une dizaine d'années et puis que je me suis arrêtée pour faire de la recherche et j'ai transmis mes résultats de mes recherches aussi alors à partir d'archives, à partir des traités de la Renaissance, de l'écriture de la danse du baroque, etc. Et je les ai fait revivre comme j'ai pu, mais j'ai transmis. Et dans mes stages, tous les stages que j'ai donnés, j'en ai donné à l'étranger, en France, énormément. J'ai beaucoup, beaucoup enseigné. Et j'ai toujours laissé les stagiaires enregistrer mes enregistrements et enregistrer ce que je racontais. Alors je sais que quelquefois ça a été très, très mal utilisé. Il y a des stagiaires qui ont pris deux stages avec moi et qui ont donné des cours. Bon. Et puis au bout de 2, 3 ans, s'ils ne font pas un travail sérieux, bah, leur école ne marche pas. Il faut se dire, allez, que les meilleurs gagnent et puis y croire un peu, parce que autrement, c'est trop triste. Non, la transmission orale, c'est merveilleux. C'est ce qui se passe toujours dans la danse. On enseigne, on enseigne. Puis après, ça bouge, ça change. Les élèves vont changer des choses. Et alors, c'est la vie.
Donc la source orale, c'est vraiment... Pour vous, c'est quelque chose de...
Ah oui, c'est la chose vivante. Et là aussi, je peux parler de justement la façon dont les informateurs et les danseurs, les farandoleurs, puisqu'on parle des farandoles, m'ont raconté comment ils avaient appris, les chefs qui avaient noté, qui m'ont donné leur cahier de pas, recopié de leur maître ou qu'ils s'étaient fait eux-mêmes avec plein de fautes d'orthographe, et la façon dont ils m'ont montré ça, et qui m'ont parlé de comment ils avaient appris, comment eux enseignent, et la joie qu'ils ont eue à faire ces concours de farandole, et à travailler tout l'hiver pour aller gagner les concours, et toute cette part humaine, et ce dialogue qui se faisait dans leur cuisine, et la façon dont ils ouvraient leur maison, et qu'ils offraient un café, un verre de vin, c'est des souvenirs merveilleux, merveilleux de confiance. Je crois que c'est, en fait, je ne mettais pas ce nom là-dessus, mais il y a cette convivialité, cette confiance qui est faite. Et si on ne fait pas confiance, qu'est-ce qui se passe? On est malheureux, hein. Il vaut mieux faire confiance. On se fait avoir, mais on gagne quand même à tous les coups.
Et autrement, compte tenu de l'attachement sentimental au fond d'archives, qui peut rendre difficile le dépôt pour certains chercheurs. Vous, si vous aviez un seul argument pour essayer de convaincre à déposer, ou bien pour convaincre de l'utilité vraiment du dépôt.
Ben oui, parce que c'est le seul moyen de aider à ce que d'autres aillent plus loin. Alors, c'est jamais abouti, c'est des témoignages d'une époque qui correspond à ses propres motivations, mais c'est une pierre qu'on a apportée, et si on ne la donne pas, cette pierre, les autres ne pourront pas en préparer d'autres et en déposer d'autres. Donc la recherche historique, elle ne se fait que petit à petit. Et il ne faut surtout pas qu'on fasse perdre du temps à des jeunes qui vont refaire une partie du travail qui a déjà été fait. C'est absurde. L'enseignement, il est fait pour être toujours dépassé. Alors je ne comprends pas l'intérêt de garder... Alors, ça m'est facile à dire, en fait, parce que j'ai été légère et heureuse de déposer parce que j'avais l'impression que c'était autrement, que c'était devenu complètement inutile. Ça m'avait apporté beaucoup, que je m'en suis servie aussi. J'ai réenseigné beaucoup de choses de ce que j'avais filmé et appris. Mais à quoi ça servait? Mais alors, je ne sais pas si j'aurais déposé aussi légèrement... tout de suite après, parce que c'est vrai qu'on est attaché à ce qu'on a trouvé. On a eu ce plaisir de la découverte qui est très très fort, et je m'en suis servi moi aussi pour retransmettre, et peut-être que j'aurais pas pu déposer le cœur léger il y a 25 ans. J'ai déposé le cœur très léger et très heureuse parce que ça allait être détruit et que ça n'avait pas été fait pour ça. Ça avait été fait pour transmettre. Alors tant que je transmettais, c'était encore vivant, ça bougeait, mais ça servait à quelque chose. Et puis maintenant que je ne transmets plus, Il fallait déposer pour que d'autres s'en servent. Je crois que c'est à peu près ça, un petit résumé de. Mais je peux pas dire, je ne peux pas savoir. Je ne me suis pas posé la question. Puisque les centres n'existaient pas, donc le dépôt n'existait pas. S'il y avait ce dépôt horrible au musée des arts et traditions populaires, que j'ai refusé. Parce que je voulais que ce soit justement
vivant.
Vivant. Voilà. Alors, moi, je me suis occupée de transmettre. C'est trop merveilleux de transmettre. On refait une petite pause. Oui.
Et autrement, avez-vous des retours de vos informateurs, de vous retourner, voir...
Bien, je ne suis pas retournée suffisamment voir mes informateurs. Je suis retournée quelquefois les voir, mais j'ai rarement pu, faute de moyens, de transport, de projecteurs, etc., leur apporter le film. Et ça, je le regrette parce que je trouve que qu'il aurait fallu faire cet effort. Je l'ai fait deux ou trois fois, en particulier pour l'Île-Dieu et pour des rondes vendéennes qui allaient être perdues, de leur apporter pour qu'ils voient que le film existait et qu'il serait déposé quelque part. Je ne savais pas encore où. Mais je trouve que c'est un respect des informateurs, des danseurs, des chanteurs, que de retourner les voir pour leur faire entendre. Alors, s'il m'est arrivé alors, de faire entendre leur voix, alors là, il y a des réactions qui sont très, très amusantes d'ailleurs, parce que leurs copains, leurs femmes, leurs voisins, etc., reconnaissent tout de suite la voix et la personne qui a chanté ne la reconnaît pas. Et ça les intéresse, enfin, les expériences que j'ai faites, ça m'a beaucoup surpris, en fait, ça les intéressait pas. Donc j'ai aussi peut-être lâché, parce que c'est très sain, finalement, je trouve, c'est même assez merveilleux. Ce qui les avait intéressés, c'était le contact humain, qu'on discute, de voir... ma curiosité satisfaite, qu'il y ait un échange, une transmission qui se passe, et d'écouter leur voix, enfin, les 3-4 fois que je l'ai fait, ça leur faisait ni chaud ni froid. Donc c'était même pas un vrai plaisir. Ils étaient contents que je vienne, qu'on retrinque ensemble, qu'on se reparle, qu'on voit que ça nous avait liés quelque part, que ça, c'était des bons souvenirs de part et d'autre. Mais... Bon, et les films aussi, quand je les ai repassés, les films, ils regardaient ça d'une façon... C'était quelque chose d'un peu mort, finalement, pour eux. Oui, c'est en répondant à votre question que j'essaye d'imaginer. Je ne suis pas sûre que ça leur... Je pense que c'est un hommage, quand même, qu'il faut rendre. Mais en fait, ils sont tellement dans le vécu que... Je ne suis pas sûre que ça leur ait apporté beaucoup. C'est d'aller les revoir qui est important. Et de leur montrer le document, je ne sais pas, il faudrait comparer avec les expériences d'autres collecteurs. Mais ça devrait être un devoir d'aller les retrouver quand même. Oui, pour les remercier une fois de plus. Voilà. Mais c'est délicat parce que c'est un partage humain important, cette confiance qui s'est faite. Et qu'il n'y ait aucune suite, c'est pas bien quelque part, mais c'est pas facile. Quand on a été dans beaucoup, beaucoup de villages, on peut pas. Difficile, oui.
Bon. Je crois qu'on va s'arrêter.
Oui, ben merci Céline.
Merci à vous surtout. Merci beaucoup.